Michel Portier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général d'Agritel. On va parler avec vous en cette rentrée des matières premières agricoles, hein, et notamment, commençons peut-être par le marché du blé. Un petit bilan de l'été pour vous sur ces matières premières agricoles. Globalement, on en est où ?
Si on parle du blé, on a une vraie tension sur les bilans. Une tension sur les bilans, c'est la première fois depuis 2012, donc les prix remontent, donc ça c'est bien pour les producteurs, liés effectivement, comme bien souvent sur les matières premières agricoles, à des incidents climatiques. Ce que l'on a eu, c'est un déficit hydrique très marqué, chacun a pu le constater, on a eu un été fantastique, mais pas une goutte d'eau grosso modo sur la France, et d'une manière plus générale sur l'ensemble du continent européen depuis le mois de juin. Donc on a eu une baisse de la production en blé en France, ça n'a pas été catastrophique, on fait 34 millions de tonnes contre d'habitude 36-37 millions de tonnes. Là où c'était catastrophique, c'est en Allemagne, c'est au Danemark, en Suède. On a vu des incendies de forêt en Suède, donc c'était significatif. Et beaucoup plus important, c'est sur le bassin mer Noire, sur la Russie maintenant. Alors la Russie, on ne peut pas dire qu'il y a eu un gros incident climatique, mais pour comparer ce qui est comparable, l'an passé ils ont fait 85 millions de tonnes de blé, cette année ils en font 69, donc il y a quand même une baisse de 16 millions de tonnes, c'est tout ce qu'on ne retrouvera pas sur le marché international. Et quand on sait que la Russie est devenue le premier pays exportateur de blé dans le monde, ça a un impact significatif sur les cours.
Alors c'est vrai qu'on avait toujours tendance à parler de l'Ukraine comme grenier en Europe. On en est où sur ce marché ukrainien ?
Alors l'Ukraine reste un grenier important, mais la Russie est en train de lui damer le pion. Pourquoi ? Parce que Poutine a une vraie politique en matière agricole. Il soutient son agriculture. Et l'Ukraine reste un acteur important. Ils vont faire 25 millions de tonnes de blé cette année. Ils vont faire une récolte record en maïs, 30 millions de tonnes. À titre de comparaison, la France fait 12, hein, donc ils vont faire presque trois fois plus que la France. Donc l'Ukraine et la Russie en cumul, si vous voulez, ce qu'on appelle le bassin mer Noire. En plus, si on rajoute la Roumanie qui est dans l'Europe et qui aussi connaît une agriculture en pleine évolution, on a un vrai déplacement des zones de production et ça s'est déplacé sur l'Est.
Quand on regarde ces marchés-là sur le plan financier, on regarde à la fois les marchés européens avec Euronext, mais on regarde aussi ce qui se passe à Chicago. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des différences entre ces deux marchés ?
Il y a une grosse différence, c'est que les Américains, ils regardent un petit peu leur nombril très souvent sur les marchés. Et lorsqu'on fait des projections, par exemple, de bilan blé à juin 2019, puisqu'on raisonne en année juin-juin, on s'aperçoit qu'on va avoir une vraie tension sur les bilans mondiaux et que 50% du disponible exportable en juin 2019 sera concentré sur les États-Unis. Du coup, les Américains ne comprennent pas pourquoi on alerte un petit peu le marché en disant « attention, on va avoir un bilan extrêmement tendu à juin 2019, Chicago ne veut pas le refléter » et du coup, on a une pression de la part des fonds, notamment les fonds sont très actifs sur les commodities, que ce soit en soja, en maïs ou en blé, et on a des mouvements un petit peu erratiques, on retrouve de la volatilité sur ces marchés, ce qui n'est pas pour nous déplaire, mais on retrouve de la volatilité et on a effectivement un petit peu de divergence entre l'opinion de marché des analystes américains, compte tenu de leur position, par rapport au reste du monde.
Oui, une volatilité qu'on a pu voir aussi en Europe, où on voit des baisses soudaines et puis les infos en provenance de Russie sur les exports finalement font repartir. Donc ce sont des marchés volatiles.
Ce sont des marchés qui sont redevenus volatiles depuis 2013, on va dire de 2013 à 2017, on n'a eu quasiment aucun incident climatique, sauf en France en 2016. Mais on retrouve de la volatilité, alors du coup on retrouve de l'intérêt de la part des financiers sur ces marchés. Et puis n'oublions pas un autre élément, là je parle de fondamentaux, mais on a un élément macroéconomique qui s'appelle Trump, qui est très bouleversant, y compris pour nos marchés. Lorsqu'on voit un petit peu les conflits commerciaux qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, quand on sait que la Chine à elle seule absorbe 60% du marché mondial et export de soja, et que les États-Unis sont, avec le Brésil, le premier pays exportateur de soja, on comprend qu'il y a distorsion, et on comprend que ces éléments géopolitique influe énormément sur les cours des matières premières.
Voilà, donc les batailles commerciales, ça n'a pas qu'un impact sur les entreprises, on va dire en général, mais sur cette partie agricole aussi, bien entendu.
Ça a un impact sur cette partie agricole, sans parler de l'impact sur les devises aussi. Regardez ce qui se passe avec Macri, donc le président argentin, il a décidé lundi de remettre des taxes à l'exportation. À son arrivée au pouvoir, pour obtenir les voix des farmers, des producteurs, il avait supprimé toutes les taxes à l'export, avec la dévaluation fulgurante du peso argentin. On se retrouve avec des taxes à l'export aussi remises en place par le gouvernement argentin.
Alors, du côté des acheteurs, on pense souvent aussi à l'Égypte. Que va faire l'Égypte, justement? Quel rôle elle joue en ce moment?
Alors, l'Égypte, maintenant, ils ont un marché captif qui est avec l'origine russe. De toute façon, c'est très simple. Il y a encore un appel d'offres, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, sur l'Égypte. On sait que ça va être du blé ou russe, ou ukrainien, ou roumain. Quasiment, les Français sont exclus un petit peu de ces marchés-là. Pas seulement à cause des prix, même si les prix peuvent être compétitifs, les exportateurs français sont extrêmement timides vers la destination égyptienne, compte tenu des problèmes qualitatifs. Il suffit que vous trouviez une graine de coquelicot sur un bateau de 60 000 tonnes pour qu'on vous rejette le bateau. Donc effectivement, ça nous laisse un tout petit peu frileux.
Du côté justement des perspectives, comment se présentent-elles? Il y a eu des sujets, on parlait des sujets climatiques, là avec on va dire cet anticyclone qui continue, il y a peut-être des sujets sur les semis d'automne.
Tout à fait, on a déjà des sujets sur les semis d'automne. En France, c'est très flagrant sur les colzas. Hier, j'ai été en Beauce, j'ai vu des champs irrigués pour faire lever, germer les colzas. Donc on a semé les colzas complètement dans le sec, donc c'est la première culture qu'on sème à l'automne, donc ça ne germe pas, ça ne lève pas. Ça, c'est le premier point. Mais quelque chose qu'on surveille de très près, c'est ce qui se passe sud-Russie. Parce que l'anticyclone, il est bloqué aussi sur le sud-Russie. Et quand vous prenez la région de Krasnodar, donc près des zones de mer Noire, là où, grosso modo, c'est 30% des exports qui se font par là, sur cette zone-là, ils ont déjà semé, ils sont en train de semer les blés, puisqu'ils sèment très tôt, c'est un climat continental, donc avant l'hiver, et même problématique, ça ne germe pas, quoi. Donc on peut s'attendre à une volatilité qui va perdurer sur les mois qui viennent.
Merci Michel Portier d'avoir fait le point avec nous.
Merci.